C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de retro marketing et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Je sens que tu es on fire. Moi, je t'avoue simplement que j'ai failli pas venir ce matin.
Mais pourquoi ?
J'ai pris mon téléphone, j'ai foncé, j'ai replongé dans l'époque, les cartes Pokémon, même les Barbie, franchement, les Mighty Max, tout. Tous ces jeux de notre enfance, tout ce qui a suivi notre évolution, que ce soit par le marketing ou par le jeu, et j'étais absorbé. J'ai failli rester sur mon canapé à regarder tout ça.
C'est fou cette histoire, hein, les POG, les Pokémon, les Pins, le Polaroid, j'en passe, et les meilleurs, ils reviennent tous, ils sont tous de retour, évidemment, dans nos vies de tous les jours, et puis aussi dans nos feeds, hein, sur les réseaux sociaux, on va voir que c'est massif. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en lame de fond, hein, derrière tout ça, se cache quelque chose qu'on appelle le marketing de la nostalgie, hein, ou plutôt aussi appelé le retro-marketing, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ce principe marketing qui augmente l'envie d'achat des consommateurs, je suis tombé sur une étude folle. Est-ce que tu l'as vu cette étude? Alors c'est une étude française, hein, d'ailleurs, qui a été publiée au Journal of Consumer Research par l'école de management de Grenoble. Voilà, donc cocorico, étude française. Hein, c'est pas souvent ce genre de sujet qui explique, eh bien, que la nostalgie affaiblit le désir d'argent. Voilà, je trouvais ça assez dingue. Ils ont fait une série d'expériences, ces chercheurs, et ils ont constaté que les sujets à qui on demandait de se remémorer un souvenir, eh bien, ils achetaient ensuite plus cher. Incroyable. Et ceux à qui on proposait de réfléchir à une situation future avaient tendance à acheter moins cher. Je trouve ça dingue. Ce que ça veut dire, ce que les chercheurs en déduisent, c'est que induire des sentiments chaleureux à propos d'un passé précieux, hein, d'un souvenir, eh ben, ça pourrait apporter des grands avantages à ceux qui veulent vendre des trucs, voilà, et les vendre plus cher si possible.
On parle donc de bien sûr de racheter ces mêmes choses, hein, ces mêmes produits.
Eh bien, pas forcément. Voilà, juste le fait de stimuler ton cerveau avec un souvenir passé sympathique, eh bien, te donne envie d'acheter plus cher, en tout cas te pousse à acheter plus cher. À l'inverse, te projeter sur une prise de décision t'invite à réfléchir davantage au prix de ton achat.
Donc là, on va parler de plein de choses cool de ma jeunesse, par exemple. Donc ça veut dire que dans 10 minutes, je peux acheter un croissant à 14 euros en bas sans souci.
C'est fort probable. Méfie-toi.
Incroyable, je vais essayer.
Méfie-toi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le retro marketing. Hein. C'est une tactique qui crée en fait une espèce de zone de confiance. On l'a tous déjà vécu. Hein, le rétro marketing, hein, comme on dit, ça consiste à utiliser la nostalgie pour rendre un produit, alors soit ancien, soit un nouveau produit, séduisant et attrayant. Hein.
Alors pourquoi la nostalgie ça marche ? Bah déjà, je trouve que la nostalgie, même de mon point de vue, c'est rassurant. Hein. C'est pour ça que les marques, elles travaillent une espèce de culture du remake, du remix, pour apporter de l'ancien, revenir à des fondamentaux communs, des choses qu'on a tous vécues, des choses qu'on traversé le temps, et on voit que les possibilités, elles sont presque infinies. On peut parler soit d'un ancien produit à soi ou même d'une époque en général, c'est complètement infini.
Ouais, ça passe aussi par le fait de s'appuyer, hein, sur des codes visuels, hein, évidemment. Alors bien sûr, il y a parmi ces codes, il y a un certain nombre de produits qui sont comme des madeleines de Proust, hein, donc vous les voyez, ces visuels de marque avec subtilement disposés sur cette photo top shot, une petite Game Boy, ah bah tiens, rétro gaming, ouais. Ou une petite forme de Polaroid qui vient suggérer quelque chose. Puis aussi, l'usage des couleurs et des polices de typographie joue pour beaucoup. Hein. Et toutes ces évocations d'objets, de collections, d'objets, contribuent à créer une zone de confiance, contribuent à suggérer en gros de la sécurité et du confort.
Il y a un terme que j'ai trouvé, moi, le terme d'imaginaire nostalgique. Je trouve ça assez dingue que ça soit pensé jusque-là. C'est des univers de laquelle on s'inspire, hein, comme le rétro, le vintage, la netstalgie aussi, hein, c'est les débuts du web, et tout ça c'est des imaginaires nostalgiques, c'est des tendances qui valorisent, hein, l'histoire sentimentale qu'il y a derrière nos objets.
C'est un peu de la comfort food pour le cerveau. Ouais, tu vois, tu te sens bien, t'es comme en pyjama et du coup t'es plus malléable, hein, c'est plus
si
facile.
Si un nouvel album sort, déjà le fait qu'il sorte en vinyle, mais si en plus sur la pochette t'as une platine vinyle, tu te dis ah ça va être cocoon, ça va être agréable à écouter, tu vois.
Il y a ce sentiment là et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce besoin de retour au vintage, à la nostalgie, il s'est exacerbé notamment avec la crise pandémique qu'on vit actuellement. Souvent le sujet de la nostalgie, il revient particulièrement fort quand on est dans des périodes difficiles, hein. C'est un peu historique, ça. En gros, on trouve du réconfort dans la nostalgie pendant ces périodes d'incertitude ou d'anxiété, on va dire, hein. Et là-dessus, je suis tombé sur une étude de MRC Data sur l'impact du Covid dans nos choix de contenu culturel. Je vous mets le lien en note de cet épisode. C'est très intéressant. L'étude, elle est toute récente là et elle explique que plus de la moitié des consommateurs trouvent du réconfort dans les anciennes émissions de télévision, les films et les chansons de leur jeunesse, notamment ouais. pendant la crise Covid. Et effectivement, eh bien, on le voit, hein, ces séries un petit peu datées qui reviennent très fort. On le voit aussi, les cartes Pokémon qui montent en flèche littéralement. Elles sont montées notamment quasiment en déclencheur accentué, on va dire, avec le Covid. On peut parler aussi de ces émissions de télé des années 2000 comme High School Musical qui sont revenues comme ça, sorties d'autres tombes.
Des vendredis, tout est permis, des trucs qui sont revenus.
Exactement. Ouais. Hein. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Allez, peut-être que ce matin, on va décrypter comme ça un certain nombre de tendances ou de marques qui ont effectué un certain nombre de virages. T'avais peut-être d'autres choses
Non, bah toujours dans cette grande intro là, fleuve magnifique, glissante. J'ai moi la nostalgie. Je suis allé un peu plus loin et je me suis dit en fait, si t'es une marque, ça peut même carrément être un pilier de contenu de ton social media. Ça touche tout le monde. C'est un sentiment commun. Globalement, on peut être nostalgique d'à peu près tout. Il suffit de savoir le raconter, comme tu le dis, de pouvoir glisser des petits détails qui nous rapportent à une époque et ça pourrait vraiment devenir un pilier de contenu à part entière dans les marques qui ont travaillé la nostalgie récemment, hein. T'as Lidl qui a revisité ses couleurs iconiques au travers de ses baskets sur cette nouvelle mode, hein, du streetwear, mais tout en revenant sur des couleurs très à l'ancienne. L'éditeur du Monopoly qui a fait une version le Monopoly pour les mauvais perdants. Bon, déjà le Monopoly c'est iconique et puis très nostalgique, mais en tout cas ça revient très fort de ramener de l'ancien dans le nouveau.
Ouais, bah par exemple un exemple qui moi me semble, et là c'est pas un détail, c'est massif, c'est Burger King, hein. Burger King qui a littéralement changé son logo et est revenu à son logo vintage. Alors ça se passe aux États-Unis, étrangement le déploiement n'est pas encore arrivé jusque chez nous en France, mais il faut ça faisait 20 ans que Burger King n'avait pas touché son logo, et qui vous souvenez peut-être, vous l'avez peut-être en tête, un logo bleu et rouge avec une espèce de burger, hein, dessiné au milieu, et ils ont décidé de tout refondre et de tout changer récemment. Tout changer, peut-être pas tout à fait, parce qu'en fait, ils sont revenus littéralement au logo des années 70, 80, 90, hein, ce logo qu'ils ont utilisé pendant plus de 30 ans, qui est un logo super vintage, couleur beige, orange, là on est vraiment dans les années 70. Ouais. Le nouveau logo, il est ultra old school et je trouve que c'est très intéressant. Alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont fait sourire. Déjà, je trouve que c'est très intéressant de voir que le déploiement de cette nouvelle charte graphique ultra vintage, d'une, il est corrélé avec la pandémie, hein. C'est là, début de pandémie, boum, changement de logo, retour au vintage et au rétro, comfort food, bien chez soi, rassurer les gens, etc. Intéressant. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il n'a pas été déployé partout et que pour l'instant, la France, visiblement, et j'ai pas l'impression, dans les autres pays, j'ai l'impression que ça a déjà bougé, la France, on est resté sur ce logo bleu et rouge, donc intéressant, je me demande pourquoi. Et puis, côté US, le rétro, lui, de son côté, a largement pris le dessus et on le retrouve notamment dans l'intégralité des contenus social media de la marque. Si tu vas sur le feed de Burger King US, tu vas vraiment tomber dans un univers qui est celui des années 70. C'est ouf, hein. Style super vintage avec des couleurs ultra vintage, un petit peu passé, un petit peu jauni, hein, très assumé. Cette police aussi, hein, qui est vraiment, vraiment rétro. Voilà, c'est assez dingue à voir. Je trouve comme move.
Ce qui est, ça me fait clairement penser à ce qu'a fait en France, à ce qu'ont fait Renault et Peugeot. Hein. Ils sont revenus sur les anciens logos, alors légèrement remasterisés. Forcément, il y a eu débat, polémique, etc. On est sur le même cas que Burger King. Je pense qu'aussi après confinement, on avait besoin de choses plus simples, moins marketées, moins techniques, moins colorées. Et aussi, c'est un objectif de réassurance. On fait réadhérer à notre marque nos anciens acheteurs, nos fans, notre base fan. c'est les logos qui existaient avant. C'est ça qui identifie la puissance de la marque à ses tout débuts.
Ouais. Moi, j'ai plein d'autres trucs. Hein. Qu'est-ce que t'as, Camille, dans ta besace?
C'est marrant parce qu'on était très sur la nostalgie là, dans un univers un peu global, et après on se balade beaucoup dans un univers années 90. Moi, je voulais te parler de cartes Pokémon. Voilà, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Je l'ai préparé. Les cartes Pokémon, c'est un énorme flux de commentaires, de posts, de contenus sur les réseaux sociaux. Si tu regardes sur Instagram, le hashtag Pokémon Cards, c'est 3,8 millions de publications. Ça a toujours buzzé. Hein, ça a toujours fonctionné depuis sa création en 99, et ça ne s'est jamais essoufflé. On pourrait croire que la franchise, hein, qui a créé tout le temps des extensions, aurait pu s'essouffler. Pas du tout. En 2020, il y a l'influenceur américain Logan Paul qui avait fait un buzz en dépensant 150 000 dollars pour une carte Pokémon. Et ça a relancé la machine, et je suis tombé il y a peu de temps par hasard sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube de David Lafarge. David Lafarge, il a 2 millions d'abonnés.
David Lafarge Pokémon.
Voilà, exactement. Son pseudo en dit long, David Lafarge Pokémon. J'étais tombé par hasard sur une vidéo, il était avec Michou, donc YouTuber aussi, qui ouvre un nombre incalculable de paquets, de decks de cartes Pokémon jusqu'à trouver The Carte Maxi Rare. Les mecs sont fatigués tellement ils ouvrent de paquets de cartes. Et il y a des feats incroyables sur sa chaîne. Par exemple, l'ouverture d'un deck, le deck de l'amour avec Studio Daniel. Mais il a aussi fait des ouvertures avec en collaboration avec Lorenzo, Thibaut InShape ou Inox Tag. Vraiment, ça va très loin et ça s'étend à tout le monde. Et c'est là qu'on le voit dans ce compte-là.
Là, tu parles des cartes Pokémon, évidemment. Énorme retour des cartes Pokémon. Mais il arrive parfois que la nostalgie, elle remette sur le devant de la scène des trucs plus inattendus, hein, j'ai envie de dire, des produits ou aux fonctionnalités qu'on aurait pu imaginer complètement désuète et disparue. Et je pense là immédiatement aux écouteurs filaires. Les écouteurs filaires font leur grand comeback. C'est la dernière tendance en hausse notable, hein, les écouteurs.
Les écouteurs ou les casques, les petits casques.
Les petits casques ou écouteurs filaires. Oui, les écouteurs avec fil. On les croyait morts, enterrés à l'heure du Bluetooth et des AirPods. Eh bien, pas du tout, en fait. Hein. Ils sont en train de revenir très fort. Ils sont en train de devenir ce que le vinyle est au CD, hein, un peu une relique du passé qu'on pensait vraiment intérêt, beaucoup moins pratique mais vachement plus cool. Et j'en veux pour preuve l'explosion des contenus TikTok autour du hashtag Wired Headphones. Le hashtag, il cumule 4,4 millions de vues sur TikTok, ce qui est assez ouf.
Ça explose.
Je vous mets le lien direct pour aller voir ça, des milliers et des milliers de vidéos de Gen Z ou de Génération Y qui racontent pourquoi ils ont changé, décidé de se débarrasser de leur AirPod, pourquoi le The New Cool is the Wire, hein, je trouve ça assez fascinant. Et il existe aussi, je suis tombé, un compte Instagram, hein, qui est dédié aux jolies filles qui portent des casques filaires. Voilà, ça s'appelle Wired It Girls. Pareil, je vous mets le lien en note de cet épisode. Et là, c'est intéressant parce que entre les photos de pubs vintage, hein, pour le Walkman de Sony, on y voit aussi un paquet de photos de top modèles très actuels, hein, très d'aujourd'hui, avec leurs écouteurs filaires. Et effectivement, tu dis, tiens, c'est étonnant. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve ça très intéressant, hein, parce que la version, déjà, on peut imaginer que la version filaire des écouteurs, elle projette une sorte d'esthétique intentionnellement effortless. C'est-à-dire, genre, j'ai pas fait d'effort d'être stylé. J'ai mis les écouteurs que j'avais au fond de mon tiroir. Ouais. Tu vois, ça, c'est quand même.
C'est très inspiré, cette réflexion-là, des visuels des années 80, où tu voyais faire du roller avec un fil qui pendait, et puis déjà les fringues larges de l'époque.
Voilà. Et puis aujourd'hui, ramener aujourd'hui dans notre époque, ça veut dire aussi, j'ai pas besoin de faire attention à être cool. Et de m'acheter des AirPods, je suis cool. Donc il y a vraiment ça. Et puis il y a aussi cette tendance, tu l'as dit tout à l'heure, au netstalgie, cette nostalgie d'une époque technologique un peu révolue, les années 90, hein, l'internet des années 90, où effectivement on avait des écouteurs filaires à l'époque, hein, cette esthétique années 90-2000, on la retrouve à plein d'endroits. Alors là, très focalisé sur les casques filaires, mais aussi dans le Walkman, hein, qui est vraiment un accessoire maintenant cultissime, qu'on voit fréquemment dissimuler dans le travail de 3D artistes, par exemple, ou d'artistes graphistes. Le téléphone à clapet aussi, hein, qui a jamais été autant
et qui est ressorti à la mode. Avec les Huawei pliables. Là.
Et qui est en train de revenir. Et puis, bien sûr, tout ce qui est autour du rétro gaming avec les anciennes Game Boy, etc.
Ouais, le rétro gaming, hein, ça, c'est la preuve que nous n'avons pas d'âge. C'est l'illustration vraiment parfaite de la traversée du temps par les objets. Franchement, tu demandes à un gosse aujourd'hui un peu fan de jeux vidéo, il connaît Pac-Man, il connaît l'Atari, il sait en quelle année a été inventée la console. Et il y a une vraie culture du gaming, hein. Les ados sont à fond dedans. Et puis, c'est devenu vraiment des objets collector. Déjà, une console, c'est gros, c'est imposant, mais il y a un style, il y a vraiment une époque au travers de ça. Comme pour les écouteurs, hein, par exemple, t'as des formes, t'as des tailles. Donc, c'est vrai que ça a vraiment traversé le temps. Si je regarde sur Insta, c'est 4,2 millions de publications. Sur TikTok et YouTube, on compte même
autour
pas
de
le
quoi
monde
autour de...
du rétro gaming.
Ah ouais.
On compte même pas le nombre de chaînes qu'il y a où les mecs testent des anciennes consoles, jouent à des anciens jeux. Et puis, chaque jeu dans le rétro gaming est devenu collector. On parlait avec Mathilde de Zelda. On peut revenir aussi sur les Pokémon, qui sont des jeux qui ont traversé le temps, qui se sont complètement réinventés. Et je voyais encore ta fille, Thibaut, il y a 3 jours, jouer à Zelda et Pokémon. Donc, c'est un truc de ouf, quoi.
Totalement. On peut parler aussi du retour des pins. Retour des pins, ça, c'est ouf. Hein. C'était l'accessoire culte des années 90. Quand moi, j'avais 10 piges, je me souviens encore avec beaucoup d'émotion de ce pins TF1 parlant. Je sais pas si tu l'as eu,
là,
toi.
Voilà,
où t'avais des voix de genre la gaffe et tout. Bon, voilà, c'était le truc à l'époque. Et on avait même des catalogues pour ranger les pins, tu sais, dans des tiroirs. Et tout ça revient extrêmement fort avec exactement les mêmes pratiques autour de la collection, des rééditions de pins. On pense à Internet Pins Company, qui sont des amis. On vous met le lien directement si vous voulez acheter des pins, des rééditions de pins vintage, hein, et son concept cartonne. Et puis, alors qu'on pensait vraiment que là, le pins était passé à la case néant et il a disparu, il revient super fort. 347 millions de vues sur TikTok pour le hashtag pins. 347 millions. C'est extraordinaire. Et t'as là en face des gamins de 15, 16, 17 ans qui te parlent de leur collecte de pins. Je trouve ça assez fantastique. Dans la même lignée, objet culte, hein, des années 90-2000, Polaroid.
Ouais.
Polaroid.
Ouais, les appareils Polaroid.
Qui signe un comeback légendaire, un Polaroid. Pour rappel, hein, c'était déclaré en faillite pour la première fois, c'était en 2001, faillite de Polaroid. Et en 2008, la société a cessé carrément de produire ces instantanés, ces films. Et là, on les croyait morts. On pensait que la photo numérique, eh bien, elle avait enterré, la technologie old school du Polaroid. Eh bien non. L'histoire de Polaroid, elle est folle. Sans rentrer dans les détails, hein, histoire de ce renouveau, de ce comeback. Ça s'appelait The Impossible Project. T'avais peut-être suivi. Une bande de Hollandais passionnés en 2008 décide de sauver la marque, rachète les usines, rachète les brevets et décide de dire non, cette marque, elle ne peut pas crever. Alors, je vous mets un lien direct si vous voulez aller suivre une petite vidéo qui explique The Impossible Project. Et résultat des courses, ils ont bien fait. Ils ont sauvé Polaroid et c'était le bon timing puisque jamais la cote du Polaroid n'aurait été aussi élevée. Hein. Juste un exemple, sur Instagram, 714 000 abonnés autour du compte Polaroid. Le compte Instagram, je le trouve vraiment très cool. On retrouve tout ce qui fait, à mon sens, le charme de Polaroid, évidemment. Ces photos avec grain, ces photos avec une part laissée à l'aléatoire de l'instantané photo. Et puis, ce fameux copyright Polaroid avec ce cadre blanc où on peut ensuite annoter ces photos qui a été pompé littéralement par des centaines et des centaines, voire des milliers de social media créatifs, de designers dans leur création. Et ce que je trouve très marrant dans ce retour du comeback de Polaroid au cœur des réseaux sociaux, très actifs, hein, notamment sur TikTok où il y a un hashtag qui s'appelle Polaroid Lovers qui est extrêmement puissant avec pareil plein de kids qui partagent du contenu. C'est que, rappelons-nous, le premier logo d'Instagram, c'était, tu te souviens de ce logo de l'application Instagram, c'était un appareil photo Polaroid avec la couleur du Polaroid, ils s'en cachaient pas à l'époque.
Oui, c'était très souvent associé même à des photos à bord blanc.
Et les filtres qu'il y avait dedans, c'était que des filtres pompés sur les effets aléatoires du Polaroid. Donc voir Polaroid revenir comme ça sur Instagram, je trouve ça assez rigolo, quoi.
Et ce qui est assez ouf, hein, avec Polaroid, c'est que ça a cessé d'exister, donc je pense qu'il y a eu un gros vide marketing pendant une période, parce que pile quand ça a cessé d'exister, il y a plein d'autres acteurs qui sont arrivés sur le marché des Fujifilm et tout avec le même produit.
Avec le fameux Instapix.
Voilà.
Voilà, Instapix qui derrière, a cartonné. Hein,
et ouais. Derrière, eh bien, Polaroid est revenu. Donc, par contre, avec son vrai beau design, un vrai beau marketing. Donc, ça, c'est trop cool.
Mais ils ont gardé le design rétro. Hein. Ils sont pas trompés de transformer la marque en marque numérique, numérisée, etc. Ils avaient eu fait cette tentative, fut un temps, comme Kodak a pu la faire aussi, d'essayer de basculer vers la photo numérique. Là, ils sont revenus vraiment avec leurs fondamentaux. Un appareil qui ressemble quand même très pour trait à celui qu'on avait dans les années 80-90.
Je m'en suis offert. Hein, Noël, c'est magnifique. Je suis vraiment nul. Les photos sont très très moches de chez moi. Je voulais te parler de deux autres trucs, moi, si tu veux bien.
Bien sûr.
D'abord, un autre truc. Quand on a échangé de ce sujet-là hier, c'est le premier truc qui nous est venu en tête, les POG. Il y a encore un mois, là, pour Noël, j'étais chez mes parents et à chaque fois, je retombe sur un ou deux trucs à l'ancienne, tu vois. Et là, j'ai ouvert ma boîte de POG. Alors, c'est une boîte Tupperware qui fait pile la taille d'un POG, donc c'est avantageux, tu vois. Je les ai ressortis et c'est vraiment, tu te remémores ces moments-là en rien qu'en touchant le carton. Je suis tombé sur alors déjà POG, c'est 76 000 publications sur Instagram, hein. On n'a pas encore le lien avec cette nouvelle génération quand même, mais je suis tombé sur un compte, hein, qui s'appelle POG Collection. Alors c'est des comptes modestes, hein, doit y en avoir des plus gros. Le mec est artiste aussi, donc t'as un lien vers son compte d'artiste. La bio, c'est: je vous partage de l'art depuis ma vieille collection de POG. C'est vrai que quand tu regardes les POG, et je m'étais fait la remarque,
déjà on dirait des NFT.
Ah, carrément.
Si je peux me permettre.
Un POG, c'est un NFT, en
non,
vrai.
Non, mais ce qui est très drôle, c'est que cette tendance des NFT, pour moi, elle est étroitement liée, de façon aussi assez paradoxale avec ce rétro-marketing, cette volonté de nostalgie, et cette collectionnite nostalgique.
Ce collector très, très, très limité. Et d'ailleurs, avant, dès qu'on créait un produit, il y avait toujours un collector. Il y avait toujours quelque chose qui sortait. Les POG, il y avait des éditions très très rares, les cartes Pokémon bien sûr depuis le début. Et je suis même tombé sur un autre compte, un Coffee and Comics. C'est une brasserie, ou en tout cas un café, qui a brassé ses propres bières et qui offrait des POG pour la sortie du brassin. Donc c'est, voilà, c'est encore d'actualité. Et Steven nous disait tout à l'heure qu'il avait même vu des POG dans les magasins. Donc je pense que ça
revient. Gros comeback. C'est fou cette histoire. Est-ce que t'as une autre tendance?
J'ai un dernier truc. C'est un peu spécial. C'est plus pour faire un clin d'œil à François. Je te parlais tout à l'heure de la nostalgie comme d'un pilier de contenu. Je réfléchissais un peu à la logique de Marronnier et autour de Star Wars. On le sait qu'il y a un énorme bassin de geekerie, pareil, de nostalgie, de tous les produits dérivés possibles qui ont traversé le temps. La phrase May the 4, tu sais que le 4 mai c'est la journée internationale de Star Wars, et bah cette phrase à la base, elle n'a pas été inventée par les fans de Star Wars, elle a été citée, inventée par Margaret Thatcher le lendemain de son élection. Elle a dit May the 4 be with you, pour célébrer le truc, et depuis 2013 en fait c'est devenu une date à part entière du calendrier Disney Star Wars. Donc là ça va bientôt faire 10 ans que ce marronnier, c'est un énorme pilier de contenu pour eux autour de cette date là donc il y a toujours un lien avec le passé.
Voilà les amis, est-ce que vous aussi vous utilisez les ressorts puissants de la nostalgie dans votre stratégie de prise de parole de marque? Est-ce que vous vous êtes aventuré du côté rétro de la marque, de vos prises de parole? Est-ce que vous avez trouvé peut-être ce matin des opportunités à rebondir sur ce besoin que nous avons tous de nous rassurer, de nous cajoler avec des éléments connus, identifiés, rassurants dans un contexte d'anxiété? On serait très heureux d'en échanger avec vous sur les réseaux sociaux @supernatif. On est partout.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, où vous voulez. Voilà. Nous y sommes.
Là où vous êtes, nous y sommes. Et puis, vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Un grand merci à vous. Si vous nous écoutez sur Spotify, sur Apple Podcasts, allez, on vous demande un petit service, les amis. Mettez-nous une petite note, si possible 5, avec un commentaire. Ça nous fera très plaisir. Et puis surtout, partagez cet épisode avec une pote, avec un pote. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers derrière le Super Délice qui nous fait très chaud au cœur.
Alors on vous embrasse très fort
et puis on vous donne rendez-vous lundi.
Bon week-end.
Salut à tous, ciao, bye bye.